Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission qui sera dédiée aux successions. Quelles sont les règles pour hériter? Qu'est-ce qu'une réserve héréditaire? Et peut-on être exclu d'un héritage? Voici les questions que je vais aborder aujourd'hui avec vous, Jennifer.
Bonjour, maître Céline Lindeau, ravie de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour notre émission « Quand la passion se mêle ». Au juridique, eh bien, c'est aujourd'hui encore une fois notre rendez-vous de ce jour et notre experte maître Céline Lindeau est là pour vous. Et si vous avez des thèmes à proposer, n'hésitez pas à nous les suggérer et vous pouvez réécouter toutes ces émissions également en podcast et vous aurez les coordonnées de notre avocate en fin d'émission. Restez bien avec nous. Alors un thème aujourd'hui maître qui est à la fois très compliqué, mais aujourd'hui qu'on va synthétiser. On ne va pas tout aborder dans ce sujet et vous allez tout de suite nous en parler. Alors, ces fameuses successions, et là aujourd'hui, précisément, entre parents et enfants. On est bien d'accord ?
Alors, oui, entre parents et enfants, effectivement, on va rester sur une présentation d'ordre général pour que les auditeurs puissent avoir les premiers réflexes, les premières connaissances en la matière. Oui. Donc, la première question qui se pose, tout bêtement, c'est comment est-ce qu'on hérite ? Est-ce qu'on hérite par la loi ou est-ce qu'on hérite par testament ou les deux ? Donc, effectivement, si je pose la question et que je vous oriente...
Elle a une importance, j'imagine.
C'est effectivement parce que les deux sont possibles. Un testament n'est pas obligatoire. Donc, en l'absence de testament, c'est la loi qui vient régler la dévolution successorale. Donc, il faut savoir que on hérite en fonction d'un ordre. Les héritiers sont classés par ordre. Il y a 4 ordres qui sont exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire que le premier exclut le deuxième. S'il n'y a pas le premier, eh bien, c'est le deuxième qui vient hériter et qui exclut les suivants.
Quand alors, vous dites le premier, le deuxième, attendez, maître, là, je vous ai perdu. Ça voudrait dire dans quel sens ?
Alors, le premier ordre, ce sont justement les descendants.
D'accord.
Les enfants.
Ça, ce sont, on va dire, le premier niveau.
Exactement.
Les enfants.
Oui, les descendants privilégiés, on les appelle comme cela. À partir du moment où il y a des enfants, ce sont eux qui viennent à la succession et on n'appellera pas les autres héritiers qui sont classés de façon inférieure dans l'ordre successoral, exactement.
D'accord.
Donc, le premier ordre, les enfants, qui sont les descendants privilégiés. Le deuxième ordre, ce sont les parents, mm-hmm. les frères et les sœurs. Le troisième ordre, ce sont les ascendants, qui sont considérés comme ordinaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les privilégiés, donc les grands-parents,
d'accord.
s'ils sont encore en vie. Et le quatrième ordre, ce sont les collatéraux ordinaires, donc qui ne sont pas les frères et les sœurs. Donc on peut,
qui peut être quoi, des cousins, des neveux, etc. Mais qui sont toujours quand même en lien avec la famille, malgré tout.
Oui, 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 tout à fait. C'est l'arbre généalogique qui est reconstitué à l'ouverture de la succession pour retrouver qui sera le successible, qui seront les successibles. Bien. Alors, on a évoqué les descendants en ligne directe, on a évoqué donc les enfants, les grands-parents, mais il y a quand même un personnage très important en matière de succession, c'est l'époux.
Eh oui, le conjoint, oui, même plus que le conjoint, vous vous dites, oui, le statut marital, carrément.
L'époux, oui, l'époux. Je parle l'époux, bien, l'épouse, bien oui. sciemment de l'époux, parce que le conjoint, on l'a évoqué lors de notre dernière émission, le conjoint qui n'est pas marié n'est pas appelé à hériter. D'accord, le concubin, le partenaire de Pacs, là, et on retombe sur le testament, oui, oui, oui. on l'abordera tout à l'heure. Mais lorsqu'il y a un époux, il faut savoir que celui-ci hérite toujours. D'accord.
Même si on n'a rien préparé, hein, maître, c'est ça surtout. Hein, on va dire, là, on ne va pas rentrer dans le sujet, il y a les contrats de mariage. Et on appelle ça le mariage. Comment on appelle ça quand on va à l'Amérique, il n'y a pas de contrat ? D'un coup, j'ai le mot qui me perd.
C'est un mariage sans contrat. Voilà, donc, c'est le régime de la communauté
voilà,
légale
merci, maître,
qui
voilà.
s'applique.
C'est ça. Donc, de toute manière, voilà, en dehors de dire on ne va pas rentrer dans la case contrat de mariage, mais voilà, si on est sur un mariage simple, on irrite de la façon que vous allez nous le dire tout de suite.
Effectivement.
Sans faire de préparation.
C'est ça. En fait, le fait d'avoir le statut d'époux vous ouvre un droit dans la succession de votre conjoint qui décède. Alors, le traitement de l'époux survivant dépendra de l'existence ou non d'enfants communs ou d'enfants issus d'une autre union. D'accord. Donc, de façon assez schématique, si l'époux survivant est en présence, est appelé à hériter en présence d'enfants communs avec la personne décédée. Dans ce cas-là, l'époux survivant a une option. Il peut opter soit pour le quart de la succession en pleine propriété, soit pour l'usufruit de la totalité. Alors, l'usufruit, c'est le fait de pouvoir occuper jouir, on va dire, d'un bien et d'en retirer des revenus. On peut mettre un bien, par exemple, en location
et voilà, bien sûr.
C'est l'usufruitier qui perçoit ces revenus-là. Alors, on comprend cette option. Pourquoi ? Parce que c'est l'intérêt aussi des enfants que le parent qui leur reste puisse jouir bien sûr, des biens dont il jouissait avant.
Parce qu'il y a vraiment... Excusez-moi, maître, pour que je comprenne bien, et nos auditeurs aussi, ça voudrait dire donc que vous dites qu'il y a un quart... qui est donc réservé à l'époux survivant, c'est bien ça ?
Il a le choix, en fait.
Ou à l'usufruit à 100%.
Exactement.
Mais alors, donc, ça voudrait dire que si, admettons, j'opte pour le quart sur, on va dire, la valeur totale de l'héritage, qu'elle soit financière, on va dire, en liquide, que ça soit, comment on peut dire
que ce soit des biens immobiliers
matériels.
Mobilier, que ce soit des sommes d'argent, on parle de
là,
sommes.
On parle dans la généralité.
Exactement, de biens immobiliers. Oui,
donc,
oui.
Admettons, je décide de prendre le quart. Dans ce quart-là, il y a un bien. Pour que je puisse en jouir, je ne peux pas si je choisis ce quart-là, parce qu'il va falloir que je dédommage les enfants.
Oui, alors, vous disposez du quart en pleine propriété. Donc après, c'est tout le travail du notaire que de venir répartir, justement. Est-ce que ce sera un quart de propriété, donc des valeurs mobilières, donc des liquidités du défunt, ou est-ce que ce sera un quart du bien immobilier, s'il n'y a que ça dans l'héritage. Donc là, voilà. Donc là, c'est vraiment au cas par cas et en fonction de l'assiette successorale, c'est-à-dire le patrimoine que laisse le défunt, qui peut être mobilier ou immobilier.
D'accord, mais on pourrait, admettons, s'il n'y avait que la maison et que je souhaite être donc dans ce cas en pleine propriété, là, je ne peux pas jouir comme je souhaite de la maison.
Vous êtes propriétaire du quart. Vos enfants sont propriétaires du reste.
Quarts.
Voilà. Donc, après... Ça va dépendre évidemment de l'entente
qu'il y a entre parents
familiale.
Et enfants.
Bon,
il y a des enfants qui peuvent quoi, mettons, laisser le parent qui est survivant dans la maison et être propriétaire et rien de réclamer avant ça.
Exactement. Ou sinon, tout le monde se met d'accord pour louer le bien et puis on se répartit les revenus. Voilà. Donc là,
Oui, il peut y avoir l'entente quand ça se passe comme ça. Sinon, c'est pas le cas.
Tout à fait.
Dans l'autre hypothèse que vous disiez, dans l'usufruit à 100%. Donc là, on n'est plus propriétaire, c'est bien ça, maître ?
Alors là, les enfants restent nus propriétaires.
Donc là, ils ont, ça ferait presque dans l'image, on dirait presque qu'ils ont les murs. Et nous, on est à l'intérieur.
À l'intérieur,
voilà,
exactement.
C'est ça, hein. D'accord, mais là, c'est eux qui ont les murs en totalité, à 100% alors.
Alors, exactement, ils sont nus propriétaires. Ça veut dire qu'ils ont le droit de disposer du bien, donc de le vendre, le cas échéant.
Ouais.
Cette nue propriété a une valeur et l'usufruit, donc la possibilité de jouir de ce bien, a une autre valeur. Donc, si jamais les nus propriétaires prennent la décision de vendre ce bien-là, eh bien, dans l'acte de vente et lorsque le notaire distribuera les fonds, il devra valoriser donc l'usufruit et valoriser la nue propriété pour que chacun récupère produit de la vente.
Ah, il y a une valorisation pour l'usufruitier ?
Oui, tout à fait.
Ah non, je ne pensais pas. Je pensais que c'était vraiment... on bénéficiait de l'usufruit et que... Parce que pourquoi on entend alors mettre parfois que des conjoints, des époux, pour protéger l'autre conjoint, l'autre époux, parfois laissent l'usufruit à 100%, comme ça on dit jusqu'à ta mort, tu pourras jouir de la maison, du oui. bien. Pourquoi on dit ça comme ça alors ?
Parce que c'est une possibilité qui est offerte au conjoint. Ça aussi, c'est une disposition testamentaire.
Alors, on revient dans le testament. Quoi.
Ouais, c'est, oui, oui, oui. Donc c'est une.
Mais c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement alors,
non,
là, maître.
Non.
D'accord, d'accord. Vous voyez que il y a vraiment. C'est vrai que vous disiez c'est tentaculaire et je comprends tout à fait vraiment au cas par cas. Et moi, franchement. Juste, je fais la parenthèse, j'oriente vraiment toutes les personnes et je vous conseille de vraiment consulter des personnes de loi comme vous pour justement préparer tout ça. Parce que quand on voit le nombre de possibilités qu'il y a, hein, maître, ça se prépare à l'avance. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner.
Ben effectivement, ce sera même la conclusion de notre propos, c'est qu'on est dans une matière qui est foisonnante, où la composition familiale va avoir un impact sur la règle qui est applicable. Donc effectivement, ce qui est bon quand on veut préserver ses proches, c'est d'anticiper les conséquences de sa propre disparition, ce qui évite des tensions d'une part, et ce qui permet de vivre sereinement sa fin de vie.
Eh oui, et non, mais on n'y pense pas, maître. Et puis c'est presque parfois un petit peu anxiogène, vous savez, de se dire oui. Oh mon Dieu, on parle de la mort, et la mort, ça fait toujours un petit peu, un peu froid au dos d'en parler. Donc, on a bien compris. Donc là, on parlait de la succession entre parents et enfants. Il y avait donc pour les époux, les personnes qui sont mariées sous le régime de la communauté, donc un droit de succession que vous disiez qui est de l'ordre d'un quart de la valeur patrimoniale totale. Hein, c'est bien
en
ça.
Fait, j'évoquais donc la situation de l'époux en présence d'enfants communs.
C'est ça.
Et effectivement, celui-ci a une option entre le quart en pleine propriété et l'usufruit. Voilà,
exactement. Et là, il y a encore quelque chose qui va se compliquer, Mathis.
Alors, eh bien oui, parce que parfois, on se retrouve avec un époux et des enfants qui ne sont pas les siens, mais qui sont issus de la première union.
Tout à fait.
Du conjoint décédé. Alors dans ce cas-là, l'époux, le conjoint survivant, n'a pas d'option. Il hérite du quart en pleine
là,
propriété.
Ah là, il n'y a plus
l'usufruit. Oui, parce que on part du postulat que la présomption d'accord des enfants pour que le conjoint poursuivre, reste dans les lieux et qui bénéficie d'un usufruit sur le long terme. Bon, on part du postulat que c'est peut-être un peu plus compliqué.
D'accord.
Et qu'on ne va pas justement complexifier les relations intrafamiliales.
D'accord. Donc, quand on a des enfants qui ne sont pas issus que de sa propre union matrimoniale, donc d'une première union, là, le quart de pleine propriété, disparaît. L'usufruit, pardon, part complètement, il ne reste que l'option du quart de la pleine propriété.
Tout à fait,
okay.
Tout à fait.
C'est bien le dire.
Et enfin, dernière situation, lorsque l'époux, le conjoint survivant, est seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant.
D'accord.
Ni les siens, ni ceux de son conjoint. Bon, dans ce cas-là, il a vocation à hériter de tout, sauf exception, si les parents du défunt sont toujours en vie. Alors, dans ce cas-là...
Ah bon
Oui.
Oh là là, alors chaque... vous nous en dites des options, là,
oui.
Vraiment.
Non, mais c'est tentaculaire, cette
d'accord,
matière.
D'accord, donc si vraiment... Donc là, on revient sur un autre cas. On reprend les deux époux. Un époux décède. Et le survivant, donc, hériterait de tout, sauf...
S'il reste les parents, c'est les beaux-parents, en gros.
Oui, les beaux... la case vilaine beaux-parents qui fait... On va dire, ne dites rien, vous, que vous êtes en train d'écouter. Dites pas, eh bien, voilà encore les beaux-parents. Non, donc là, les beaux-parents auraient une part...
Tout à fait.
Alors là, vous m'en apprenez une, maître. De toute façon, c'est grâce à vous qu'on en sait plus aujourd'hui. Et quelle est cette part, alors ?
Chacun a droit à un quart. Donc, s'il...
À chacun des parents ?
Tout à fait.
D'accord. Alors, ça me fait sourire parce que j'imagine les gens ce qu'ils vont dire dans leur tête. Ils m'auront embêté jusqu'au bout, les beaux-parents, mettons. S'ils ne s'entendent pas, évidemment. Ce n'est pas tout le monde qui ne s'entend pas avec ses beaux-parents. D'accord. Un quart pour chaque parent... de l'époux qui est décédé.
Voilà, donc s'il reste deux parents, eh bien, eh bien voilà, c'est la moitié du patrimoine qui
leur
est réservé.
Ah ouais.
Et s'il ne reste qu'un parent, Jennifer est choquée. S'il ne reste qu'un parent, c'est un quart.
D'accord.
Et le conjoint aura donc trois quarts.
Eh ben, vive les beaux-parents, j'ai envie de nous dire. Voilà, mais bon, vaut mieux faire des enfants finalement. Bon, donc c'est vraiment, ah non, mais c'est pour ça vraiment, chers auditeurs, préparez tout à l'avance, parce que quand on voit vraiment, j'imaginais pas qu'on aurait déjà, en plus on disait avec maître Céline Lindo, on voulait aborder le thème succession, mais quand elle m'a précisé dans tous les schémas qu'on pouvait aller, elle m'a dit, là on va se contenter de juste parler entre parents et enfants, ça sera déjà bien chargé. Donc, et elle a tout à fait raison quand je vois déjà toutes les différentes possibilités qui se passent dans notre sujet. Bon, maître, on a tout compris. Il y a encore plein de particularités que nous allons aborder. Nous avons parlé des règles entre héritiers, entre parents, enfants, quand il y en a, quand il n'y en a pas, et justement quand il y en a aussi d'un premier mariage. Il y a aussi cette précision qu'il faut apporter, qu'est-ce que la réserve héréditaire.
Oui.
Là alors, aussi, c'est une précision aussi.
Oui, 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 vaste programme. Donc, on a évoqué la dévolution successorale par la loi, en l'absence de testament. Donc, on a la possibilité, bien sûr, de tester et de prendre des dispositions pour répartir son patrimoine suite à son décès. La question, c'est est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut ? Bon. Ou est-ce qu'on est limité par une réserve héréditaire ? Vous l'avez évoqué, elle existe, donc c'est bien pour ça. Donc en fait, les personnes ne sont pas libres de disposer de la totalité de leur patrimoine, et il y a des parts qui sont réservées à certaines catégories, à deux catégories d'héritiers. Donc les enfants, d'une part, et en l'absence d'enfants, ce sera le conjoint, toujours.
Ou les beaux-parents.
Non, je vous rassure, à ce niveau-là, non.
On les enlève. Non, je vous embête.
Les pauvres. Et donc, du coup, la réserve héréditaire, vous l'avez compris, c'est la partie du patrimoine qui est réservée à une catégorie d'héritiers et que le donateur ne peut pas, dont le donateur donc ne peut pas disposer librement. La part qui reste à côté de cette réserve héréditaire, je vous donnerai un petit exemple chiffré tout à l'heure pour que ce soit plus clair, on l'appelle la quotité disponible. Donc, c'est la part dont on l'appelle le decuius en latin. On aime beaucoup parler en latin.
Voilà l'expression.
Chez les avocats. En gros, c'est le défunt.
Le decuius.
Le decuius, tout à fait.
Merci, maître.
Bon, donc celui-ci peut disposer d'une quotité et la répartir librement à un tiers, même sans lien de parenté. Il en fait ce qu'il veut. D'accord ?
Et parfois, il y en a, on voit qu'ils les mettent à disposition d'une association ou d'une personne qu'ils ont à cœur. C'est possible.
Oui, 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 tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Donc, je vais vous donner un petit exemple.
Oui.
Une personne décède. Son patrimoine est évalué à 300 000 euros. D'accord ? La réserve héréditaire, il faut savoir qu'elle évolue en fonction du nombre d'enfants, d'une part. Si on a un enfant, la réserve héréditaire, c'est la moitié du patrimoine. Si on a deux enfants, la réserve héréditaire, c'est les deux tiers. Donc, on ne peut pas toucher. Après, le tiers restant, on en fait ce qu'on veut. Si on a trois enfants et plus, la réserve héréditaire, c'est les trois quarts. Et chaque enfant, bien sûr, se partage ses trois quarts à
part. Quand vous dites la réserve héréditaire, c'est donc la partie du patrimoine que l'on ne peut pas toucher.
Exactement.
C'est bien ça. Et qu'on n'est pas libre de disposer comme on le souhaite.
Exactement. Qui sera répartie entre les enfants à part égale. D'accord ? Petit exemple. Donc, je reviens sur mon exemple du patrimoine évalué à 300 000 euros et je suis en présence de deux enfants. Donc, la réserve héréditaire, ça va être les deux tiers. Donc, on est sur 200 000 euros que le decuius ne pourra pas toucher. D'accord ? Il ne pourra pas porter atteinte à cette réserve. Ce montant-là de 200 000 euros doit être réparti entre les enfants de façon égalitaire. Donc, chacun aura 100 000. Très bien. Donc, en fait, il reste 100 000
euros.
Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Et la quotité disponible, eh bien, le decuius en fait ce qu'il veut.
D'accord. Donc, là, c'est là où il y a plusieurs options.
Oui.
On en fait ce qu'on souhaite. Ça peut être pour privilégier un enfant.
Exact.
Ça peut être pour, vous le disiez, X personnes. Mm-hmm. C'est pas obligé que ça soit dans le cadre familial.
Non.
Ça peut être une association, ça peut être voilà, vraiment ce qu'on veut.
Tout à fait, tout D'accord. à fait. On peut en disposer librement.
D'accord.
Voilà. Et effectivement, il est possible d'avantager un enfant en lui attribuant le tiers qui représente la quotité disponible. Alors, il faut savoir que parfois. Ça arrive que les dispositions testamentaires ne respectent pas cette réserve. Et dans ce cas-là, l'héritier qui se sent lésé a la possibilité de faire ce qu'on appelle une action en réduction. En gros, il va demander à ce que les calculs soient refaits.
Pour voir s'il n'a pas été lésé dans la répartition.
Exactement, en démontrant que lui, il n'a pas eu droit à la moitié des
deux
tiers.
Oui, on reprend votre exemple de 300 000 euros. Vous disiez, il y a 200 000 euros qui sont donc la réserve héréditaire qui, là, serait destinée notamment aux enfants. Mmh. Vous y preniez donc le cas de deux. De deux enfants, donc chacun à 100 000. Mais admettons... le parent qui a fait un testament dit « Moi, j'ai une quotité disponible de 100 000 euros. Je veux qu'elle soit privilégiée pour un de mes enfants.
Voilà. »
Tant qu'il ne la dépasse pas, ces 100 000 euros, il est dans la loi.
Tout à fait.
Donc, pour dire, un enfant aura 100 000 et l'autre aura 200 000 parce qu'il a été privilégié légalement. En revanche, là, s'il devait dépasser cette somme-là, l'enfant qui se sentirait lésé a le droit de demander une procédure.
Voilà, une réduction, de cette part. Tout à
D'accord.
fait.
D'accord. Et c'est qui calcule tout ça, maître ?
Alors, ce sont les notaires, bien sûr, puisque ce sont eux qui règlent les successions. Et en cas de litige, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec le notaire, on demande au tribunal de statuer.
Par l'intermédiaire, donc, d'un avocat. Là aussi, encore, vous reprenez, c'est donc vous êtes capable aussi de faire les calculs, de dire, là, mon client a été lésé d'une partie de telle somme.
Tout à fait. D'accord. Et si on est dans des successions qu'on peut qualifier de complexes, on demande au tribunal de désigner, s'il le faut, un expert comptable, s'il le faut, un expert immobilier.
Il peut y avoir une quantité de biens qui soit quand même un peu compliquée à calculer.
Tout à fait.
On est bien d'accord.
Et chacun son métier.
Et
donc,
oui.
Nous, on connaît les règles qui doivent être appliquée et on sait les interpréter pour obtenir la décision à laquelle on prétend. Mais s'il s'avère qu'on a besoin d'une spécialité, d'une compétence annexe, alors dans ce cas-là, on peut demander au tribunal, qui peut même se l'octroyer d'office. Le juge peut estimer qu'il a besoin d'être éclairé par un expert, un sapiteur. Et dans ce cas-là, ces professionnels interviennent, rendent des rapports, il y a des réunions entre les parties. Et à l'issue de cela, chaque partie va faire valoir son argumentation pour qu'on ait une décision du tribunal.
Eh oui, donc vraiment, vous comprenez encore une fois, je le répète tout au long de cette émission, la nécessité de préparer les choses et de ne pas laisser de manière hasardeuse quand on veut les préparer. Parce qu'après, si on se dit, bon, mais c'est pas grave, c'est possible, maître aussi, de dire, écoutez, les choses se feront comme elles se feront, peu importe, après ça se vendra, ça se vendra pas, ça se dispute, ça se disputera pas. On est libre aussi, de toute manière, c'est pas obligé.
Aucune obligation. On est libre de transmettre ses biens selon sa volonté ou de laisser le législateur décider.
Vraiment, en fait, si on devait le préparer, c'est pour éviter des conflits quand on souhaiterait vraiment les éviter après notre disparition. Quand on veut privilégier, notamment là, on parlait d'un enfant par rapport à la quotité disponible et que quand on souhaiterait peut-être laisser un bien particulier à un de ses enfants. Et voilà, vraiment préparer. Il y a vraiment cet intérêt-là qui peut se faire à travers vous, maître, mais aussi à travers les notaires.
Oui, c'est devant les notaires que les testaments sont déposés, tout à fait.
Mais on peut vous demander conseil quand même,
maître. Oui, nous on intervient en amont pour accompagner les personnes justement dans leur prise de décision, mais on les oriente très rapidement vers un notaire qui est le seul à pouvoir recueillir les dispositions testamentaires. Il y a un fichier national qui existe et qui permet notamment lors d'un décès, quand on apprend le décès d'un grand-oncle, bon, on ne sait pas trop comment agir, eh bien on va demander à un notaire de faire des recherches au fichier national déjà pour vérifier si ce monsieur avait pris des dispositions testamentaires. Donc ça, c'est le premier réflexe. Et à défaut, eh bien, ce sera au notaire de d'établir l'arbre généalogique. Il peut travailler d'ailleurs avec des généalogistes. Hein, moi, dans le cadre de mon activité franco-italienne, il y a beaucoup de notaires qui mandatent des cabinets de généalogistes pour aller chercher des héritiers en Italie. Pour vérifier que c'est pas un homonyme d'une part, et pour rétablir le fameux arbre généalogique qui permettra ensuite de distribuer les parts.
Et d'établir la succession.
Voilà. S'assurer qu'on a touché tout le monde,
Et oui, parce que oui, en plus, quand là, ça va si loin que ça soit des neveux, des nièces, peut-être qu'il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas qu'un cousin, il n'y a pas qu'une cousine. Donc oui, de savoir qu'on a bien réparti de manière égale à tout le monde, à toutes celles et ceux qui avaient droit en tout cas. Alors, pour terminer dans cette émission, maître, parce que le testament, c'est encore une autre partie, et ça sera encore un sujet bien à part, parce que là aussi, c'est quelque chose encore, une fois, qui demande de grandes réflexions et de grandes connaissances encore. Pour finir dans ce sujet des successions entre parents et enfants, on se posait la question justement de peut-on être exclu ou renoncer à une succession ? Donc, est-ce que nos parents pourraient nous exclure et comment ça se passe ?
Alors, comment ça se passe ? Il y a effectivement une possibilité d'être exclu d'une succession et on parle d'une exclusion pour indignité. Donc en fait,
indignité.
Oui,
il est fort le mot.
Il est fort mais
il a son sens.
Oui, tout à fait.
D'accord.
C'est pas pour rien. Donc on parle d'indignité lorsque l'héritier a tenté de commettre un meurtre sur la personne
Là, l'indignité, on comprend.
Voilà. Donc, il y a des indignités qui sont automatiques et d'autres qui sont demandées par un autre héritier. D'accord ? Celles qui sont automatiques, c'est effectivement la tentative de meurtre.
Les choses les plus graves, vraiment.
Voilà. Dans les cas dans lesquels un héritier peut demander l'exclusion, alors là, on est sur des délits. C'est-à-dire qu'on va démontrer que la personne qui est successible a tenté de commettre, a commis un délit vis-à-vis de la personne qui est décédée. Alors, les délits, quels peuvent-ils être ? Ça peut être une agression sexuelle, un témoignage mensonger qui aurait pu conduire à la condamnation pénale de la personne.
Oui.
C'est des cas qui sont très spécifiques
et
qui ont amené le législateur à considérer que la personne n'était plus digne d'hériter. Voilà.
Mais dans le cas où on ne va pas aller si loin, il y a des possibilités, maître, par exemple, où c'est vraiment de renier son enfant, en fait. Il m'avait semblé qu'il était possible que quand, par exemple, on renie un enfant, mais ça ne vaudrait même plus le reconnaître, en fait, ça se fait ou ça ne se fait pas du tout, ça, maître ?
Alors, si votre enfant, sur l'état civil, c'est votre enfant,
ouais,
il bénéficie de la réserve héréditaire. D'accord.
D'accord.
Donc, vous ne pourrez pas le déshériter de la part qui lui est réservée. Ça, c'est impossible.
Dans les cas graves, là, vous disiez, dans les cas où il peut être exclu.
Voilà.
Mais en dehors de ça,
non, c'est impossible. Ou
d'accord.
Alors, il est considéré comme n'étant pas votre fils parce qu'il n'y a pas de lien de filiation qui est établi vis-à-vis de l'état civil. Bon, mais c'est pas votre enfant, il n'héritera pas de vous. Par exemple, un enfant fait l'objet d'une adoption simple, on l'a vu la semaine dernière.
Oui, lors du beau-parent,
Il hérite, il hérite de l'adoptant. Il n'y a pas de possibilité de renier un enfant il y a une possibilité de renier dans les faits, bien sûr, mais ça n'aura pas de conséquences sur sa part successorale.
Légal. D'accord, vraiment, en dehors de ce que vous disiez dans des affaires, dans des cas graves, vous venez d'évoquer, il n'y a que dans cette possibilité-là. Sinon, automatiquement, l'enfant héritera.
Tout à fait.
Même qu'on s'entend plus avec.
Eh oui.
D'accord.
Donc, tout le monde pense à l'affaire médiatisée Johnny Hallyday. On n'était pas sur le droit français, ça ne se serait pas passé de la même façon.
C'est certain.
Après, je ne connais pas le dossier, donc je ne le commenterai pas,
Que
tout le monde m'en parle à chaque fois. Mais non, ce n'est pas la même chose.
Et oui, parce qu'il y avait le droit aussi là-bas aux États-Unis, il y avait en France, ça se mélangeait un petit peu, et les choses étaient bien plus compliquées. Donc, c'est bien clair. Donc, on ne peut pas déshériter un enfant à partir du moment qu'il est reconnu sur l'état civil, sauf, vous disiez, dans les cas exceptionnels, que vous rappelez le terme, maître, c'est dans les...
Indignité.
D'indignité.
Tout
dans
à
les
fait.
Cas d'indignité, mais là, c'est des cas graves, vous disiez, tentative de meurtre, ou vraiment de choses qui sont légalement pénales. Donc,
tout à fait.
Ça, on a évoqué, donc on ne peut pas être déshérité en tant qu'enfant. Est-ce que, en revanche, là on se met dans la position de l'enfant, est-ce que nous pouvons renoncer à cette succession ?
Oui. Alors, lorsque l'on hérite, on a trois options. On peut accepter tout simplement la succession. On peut l'accepter à concurrence de l'actif net. Ça veut dire que vous acceptez, très bien, mais vous ne voulez pas payer les dettes au-delà de la valeur, au-delà de l'actif qui est disponible dans la succession. S'il y a 150 000 euros de dettes et que vous héritez de 100 000 euros, en gros, vous dites « Ok, mais moi, je ne paye pas les dettes au-delà de 100 000 euros ». Bon, en fait...
Et à quoi ça sert ?
C'est un quitus, voilà.
D'accord. Hein.
Bon.
On peut dire ça ?
Oui, ça s'appelle effectivement donc l'acceptation en concurrence de l'actif net.
D'accord.
Et vous pouvez hériter, et vous pouvez effectivement renoncer.
D'accord.
Renoncer. Oui. Alors, vous pouvez renoncer de façon anticipée, mais je vais y revenir, c'est très spécifique. Mais d'ordre général, comment ça se passe ? À l'ouverture de la succession, vous avez 4 mois pour faire une déclaration au tribunal judiciaire valant renonciation à la succession de votre père ou mère. Si vous avez vous-même des enfants, il faut bien penser ensuite à renoncer en leur nom, parce que si vous ne voulez pas en fait que ce que vous refusez pour vous, vous ne voulez pas que ce soit transmis non plus à votre enfant.
Pourquoi ça aurait pu ?
Eh oui, parce que l'enfant vient en représentation de son parent. Prenons le cas d'une personne qui décède. Il laisse une fille. Unique. Cette fille unique.
Un enfant.
Est décédée.
Ah, d'accord.
Décédée et elle avait deux enfants. Eh bien, les deux enfants vont venir en représentation de la maman au jour de l'ouverture de la succession, donc du grand-père.
D'accord.
Okay. Et donc, ce sont eux qui vont hériter de la part qui était destinée
à
leur maman.
D'accord.
Voilà.
Ok, je comprends.
Donc, c'est pour ça que quand on veut renoncer à la succession, ça veut dire que, hop, il y a une étape qui disparaît, l'étape enfant. Alors, où on va aller chercher ? Les petits-enfants. Donc, en général, si on renonce à une succession, c'est pas pour rien.
Bien
c'est
sûr.
Parce qu'on ne la veut pas ou parce qu'elle est, elle est négative ou peu importe. Bon, alors, on prend le soin de renoncer aussi au nom des enfants. Mais dans ce cas-là, il faut faire intervenir le juge des tutelles parce que celui-ci est garant de l'intérêt des
soit
enfants à renoncer.
Dans le cas où ils sont mineurs, maître ?
Oui.
Et s'ils sont majeurs, admettons ?
S'ils sont majeurs, ils sont appelés à la succession et puis ils sont
libres
de...
Ils prendront leur propre décision.
Exactement.
D'accord. Mais c'est bien intéressant de savoir comment ça se passe. Si on devait refuser donc la succession d'un parent ou des parents, en tout cas, il faut bien préciser qu'on la refuse en son nom, mais que si les enfants sont mineurs, il faut la refuser aussi en leur nom, parce
Exactement.
Que sinon elle ira
Et oui.
aux enfants, quoi, nos enfants à nous, donc les petits-enfants notamment, des parents décédés. Eh bien, écoutez, ça, c'était assez important aussi à le dire, mais généralement, on nous le conseille, maître, ça, non ?
Ah oui, tout à fait.
Hein, on ne nous laisse pas comme ça d'avoir la propre réflexion, parce que, par exemple, jamais on n'y aurait pensé
Vous
à quelque chose comme
pensé.
Ça.
Vous n'y auriez pensé. Je l'entends. J'ai eu l'exemple, justement, d'une personne qui vivait en Italie, dont la maman vivait à Marseille, mais les liens étaient rompus depuis toujours, donc il n'y avait aucun lien affectif, et lorsque cette personne qui avait elle-même un enfant... en Italie, qui ne connaissait pas sa grand-mère, lorsque cette personne m'a sollicité pour renoncer, bien sûr qu'elle m'a sollicité pour renoncer à sa propre succession.
Bien
Donc
sûr.
Ça a été mon travail aussi que de lui dire, mais attendez, vous avez un enfant mineur, il faut aussi renoncer pour lui, sinon ça ira directement...
Mais ça, quand ça ira, mettons, mettre là dans cet exemple, ça aurait été cette succession à partir du moment qu'il serait majeur, cet enfant-là, ce petit enfant?
Alors, en général, il faut qu'il y ait un juge des tutelles qui soit désigné pour gérer le patrimoine d'un enfant mineur lorsque les représentants légaux ne sont pas en capacité ou lorsqu'il y a des conflits d'intérêts.
D'accord.
Voilà.
D'accord, bah écoutez, c'est vraiment un grand sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Et Maître, je vous remercie sincèrement de m'avoir conseillé de prendre que les parents-enfants, parce que c'est vrai qu'on aurait fait 3 heures d'émission largement. On a déjà fait plus de la demi-heure sur le sujet, la succession entre parents et enfants. Donc, on disait ce qui est notre conclusion. Vraiment, si vous avez des volontés précises à apporter lorsque vous allez un jour disparaître, vraiment, c'est surtout de préparer sa succession. Parce qu'il y a plein de choses à savoir, il y a déjà des réserves héréditaires, il y a des quotités disponibles qui peuvent privilégier un enfant ou une personne ou une association. Quand il y a donc un époux qui disparaît, il y a ce que vous disiez, le quart l'option du quart en pleine possession.
En pleine propriété,
et vous disiez 100% de l'usufruit. Voilà. Vous voyez comme quoi tout ça c'est important. Et après, parfois, les mauvaises surprises ne sont pas bonnes, hein, Maître, surtout quand on a le décès. Et en plus, des inquiétudes comme ça après.
Et les difficultés, bien sûr.
Il faut vraiment donc conseiller de préparer. On parlait également le refus, comme vous venez de l'entendre. Le refus est possible et il vous permet donc de ne pas hériter. Ou, est-ce qu'on peut être exclu? Non, si on est un enfant reconnu de l'état sur l'état civil, vous ne pouvez pas être exclu de l'héritage de la succession des parents. C'était déjà bien chargé.
C'était pas mal, effectivement.
Maître, merci encore une fois d'avoir abordé ce thème aujourd'hui ensemble. On vous retrouve, Maître Céline Lindo, ici sur Marseille, mais aussi en Italie, parce que Maître Céline Lindo a la particularité de nous prodiguer aussi bien des conseils sur le territoire français que sur le territoire italien. C'est sa grande spécialité, elle est bilingue et tout, elle est charmante, elle est intelligente, elle est tout ce que vous voulez. Elle est sur Diva FM et c'est une grande chance. Maître, vos informations s'il vous plaît à nous transmettre.
Oui, vous pourrez contacter le cabinet au 04 86 01 28 70 et surtout n'hésitez pas à consulter notre site internet www.lindo-avocat.fr.
Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette nouvelle émission aujourd'hui, le thème, comme on vous l'a dit, la succession entre parents et enfants. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission dès la semaine prochaine avec Maître Céline Lindo, là où la passion se mêle au juridique. Merci à vous, très bonne semaine, très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine, Maître.
À la semaine prochaine.
Merci. Bye.